12e temps d'une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'écriture de l'histoire des femmes, du féminisme et du genre. Comment écrit-on et comment présente-t-on l'histoire des femmes aujourd'hui ? C'est le thème de notre série d'émissions de la semaine à l'occasion de la parution récente d'un dictionnaire des féminismes dont nous vous avons parlé hier. Ce matin, nous partons en balade aux Archives nationales à Paris où se tient une exposition sur les femmes présumées coupables. Des sorcières aux empoisonneuses, des empoisonneuses aux infanticides, des infanticides aux pétroleuses, des pétroleuses aux femmes tondues. Cette exposition fait le point sur les représentations collectives de la culpabilité des femmes à différentes époques. Séverine Yatard nous l'a fait visiter aujourd'hui en compagnie de Fanny Bunion et de Louis-Pierre Fournier.
Nous sommes donc aux Archives nationales, à l'hôtel Soubise. Il y a une exposition qui a ouvert et qui sera ouverte jusqu'à la fin du mois de mars, Présumé coupable. Une exposition donc qui travaille la problématique de la violence des femmes, des figures de femmes criminelles, des Amazones de la terreur, ou des pécheresses, ou des sorcières, toutes ces figures qui sont en fait énormément fantasmées et mythifiées, des sujets qui relèvent donc de constructions archétypales plutôt que des figures réelles. Et c'est vraiment l'objet de cette exposition et qui fonctionne donc en 5 parties. La sorcière, l'empoisonneuse, l'infanticide, la pétroleuse et puis pour finir la traîtresse, la collaboratrice, figurée par notamment la femme tondue à la Libération. Donc on chemine dans cette exposition donc de Jeanne d'Arc à Violette Nozière, toutes ces femmes qui ont subi des procès, qui ont eu affaire à la justice. Et donc nous sommes avec deux commissaires de cette exposition, vous Pierre Fournier qui êtes conservateur aux Archives nationales, conservateur du patrimoine, et Fanny Bunion, vous êtes vous maîtresse de conférence à Rennes 2, spécialiste de l'histoire du genre et l'histoire des femmes. Alors Pierre Fournier, vous vouliez commencer donc à l'entrée de l'exposition. Il y a toute une série de reproductions à la fois filmiques, iconographiques, photographiques de femmes justement violentes ou criminelles.
En tout cas jugées.
Jugées en tous les cas.
Voilà, parce que comme vous l'avez dit, il existe des stéréotypes très très présents, très prégnants, et ce préambule, qui peut être aussi vu comme un épilogue d'ailleurs de l'exposition, montre à quel point les représentations sociales à travers l'image du 19e au 20e siècle, on a privilégié cette époque contemporaine, sont encore omniprésents. Alors, c'est une entrée en matière, puisque l'exposition, il faut bien le savoir, c'est une exposition de documents d'archives, 320 procès-verbaux d'interrogatoires de femmes qui, du 14e au 20e siècle, à un moment de leur existence, et souvent c'est le dernier moment d'ailleurs, ont un contact avec l'autorité judiciaire. Et donc l'exposition, c'est avant tout ces pièces de procédure, ces procès-verbaux d'interrogatoire, mais on a voulu prévenir le visiteur qu'avant de pénétrer dans l'expo proprement dite, il est, qu'il le veuille ou non, enveloppé de toutes ces représentations. Et parmi ces représentations, il y en a deux qui effectivement parlent à tout le monde, c'est l'iconographie, l'icône de Jeanne d'Arc et l'icône de Marie-Antoinette. Comme par hasard, deux femmes qui ont été jugées, on ne va pas aujourd'hui discuter de leur culpabilité ou de leur innocence, c'est pas du tout le sujet de l'expo.
Deux femmes de pouvoir.
Voilà, deux femmes de pouvoir qui ont été jugées, condamnées et exécutées. Inutile de dire que l'iconographie est abondante. Les représentations à travers au XXe siècle, le cinéma, les séries télévisées sont également très abondantes. Pourquoi Jeanne d'Arc et Marie-Antoinette restent aux yeux de beaucoup de Français les deux personnages féminins les plus importants de l'histoire de France.
Et donc justement, Fanny Bunion, c'est intéressant aussi, vous êtes historienne spécialiste du genre, de travailler dans le cadre d'une exposition sur l'histoire des femmes, et là en l'occurrence sur des femmes donc jugées, suspectées d'être criminelles, violentes, enfin qui transgressent en tous les cas l'ordre des choses, qui sont supposées transgresser.
On est dans une histoire qui s'inscrit à rebours de l'économie générale de la violence, puisque les femmes ont toujours été et sont toujours encore aujourd'hui une minorité de la population pénale et carcérale. Elles sont moins confrontées à la justice, moins mises en cause que les hommes. Et surtout, elles apparaissent comme des figures archétypale de certains crimes. On est dans une exposition qui a fait le choix de partir de l'histoire de femmes, de femmes ordinaires, parfois au destin extraordinaire, qui ont été à un moment ou à un autre confrontées à la justice, à une justice qui est une justice masculine. Ce qui est aussi important de le rappeler. Jusqu'en 1946, il n'y a pas de femmes dans la magistrature en France. Donc, des femmes jugées par des hommes, alors qu'elles-mêmes sont une minorité au sein de la population pénale et carcérale. C'est vrai pour la période médiévale, l'Ancien Régime, mais c'est aussi vrai pour la période contemporaine. Mais là, les figures de femmes en justice qu'on a choisi de mettre en avant sont des figures qui sont ultra-féminisées. Certaines d'ailleurs qui n'existent qu'au féminin, on le verra tout à l'heure en se promenant, d'autres qui sont des figures mixtes, mais pour lesquelles les femmes sont surreprésentées par rapport à leur présence habituelle dans les tribunaux. Il y a à la fois cette réalité archivistique de présence des femmes en justice, mais il y a un océan d'imaginaire sur les femmes confrontées à la justice. La question n'est pas de savoir si elles sont coupables ou non. Leur point commun, c'est d'avoir été jugées pour des faits, mais aussi... Et c'est ce qui transparaît à la fois dans les représentations picturales, mais aussi dans les documents d'archives, parce qu'elles sont des femmes et qu'il y a, je reprends une expression de Dominique Godinot, des femmes qui sont sorties des bornes de leur sexe, c'est-à-dire qu'elles ont transgressé, volontairement ou non, en tout cas, on met un accent très fort là-dessus, les normes pénales, mais surtout les normes de genre, qui évoluent aussi dans le temps, hein. La culture populaire, elle est abondante. On a effectivement des images du 19e siècle véhiculées par Victor Hugo, Jules Michelet. Et puis on a aussi, à la fin de l'exposition, des couvertures de bandes dessinées des années 60 qui mettent en scène ces figures féminines du désordre avec un énorme pouvoir érotique aussi, il faut bien le dire.
Il y a toujours la question de la sexualité. On y reviendra tout au long d'ailleurs de cette exposition.
Absolument.
Parce que c'est primordial. Hein. C'est toujours cette problématique, il semblerait, du contrôle de la sexualité des femmes quand
Absolument.
Même, soyons... Alors, on va commencer à entrer dans cette exposition. Pierre Fournier, donc, vous voulez commencer ?
Voilà, donc c'est la matière première des historiens dans cette grande galerie.
Rouge.
Tonalité rouge, hein, avec une introduction picturale assez impressionnante. Vous avez le péché originel, Ève, qui confie une pomme à Adam. Mais dans l'arbre, vous avez une femme serpent, très belle d'ailleurs, qui est Lilith. La sorcière, donc, c'est le premier des cinq archétypes que nous traitons dans l'exposition. Elle résume tous les autres archétypes en matière de transgression. C'est la transgression d'à peu près tout, ce qui fait les fondements de la société. Donc, nous avons montré à travers cette centaine de procès-verbaux qui vont du XIVe siècle jusqu'au XVIIe siècle, comment ces femmes répondent à des questions toujours les mêmes qui leur sont posées par des juges pétris de ce qu'on a appelé les traités de démonologie. C'est-à-dire que vous avez une norme qui se met en place à la fin du Moyen-Âge et qui va expliquer aux juges comment traiter des cas de maléfices, de sorcellerie. Et donc, au fil de cette grande galerie, vous avez plusieurs sous-sections qui correspondent chacune à une question du juge. Et il y en a trois ou quatre qui sont vraiment spectaculaires au sens où on a du mal à comprendre comment des esprits éclairés, puisque nous sommes tout de même à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, après la Renaissance et l'époque de Shakespeare tout de même, comment des hommes ont pu interroger des femmes sur leur relation charnelle avec le démon, sur ce qu'elles faisaient au moment de ces danses nocturnes qu'on appelait le sabbat, comment elles utilisaient les poudres, les onguents du diable pour empoisonner, ensorceler, jeter des sorts, etc., etc. Donc, pour reprendre l'expression de Lucien Febvre, nous avons traité cette énigme historique qui est la chasse aux sorcières de cette période qui va de 1560 jusqu'à 1630, au cours de laquelle... dans l'Europe, mais pas toute l'Europe, on a condamné et exécuté, souvent par le feu, plusieurs dizaines de milliers de femmes.
Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être, Pierre Fournier, est-ce qu'en particulier, il y a un document judiciaire qui vous semble très, enfin, assez intéressant, que vous connaissez mieux, qui est pertinent ?
Le numéro 7 me plaît beaucoup.
Alors, c'est l'interrogatoire de
Alors,
Martial
c'est assez
Espaz.
Rare, parce que là, nous sommes donc en 1491, dans le sud-ouest, enfin le sud-ouest, dans le midi de la France, hein, donc là, en zone languedocienne, et nous avons un des très rares procès-verbal d'interrogatoire qui nous soit parvenu du Moyen-Âge, enfin, le tout début de l'époque moderne. Donc, vous voyez, ça ne paye pas de mine, hein, c'est un simple cahier de papier avec des questions et des réponses. Alors là, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est en latin, mais que le greffier qui retranscrit les questions du magistrat instructeur et de la présumée coupable, qui s'appelle Martial Espaz, Boucquoiran dans le Gard, de temps en temps, on le sent pris au dépourvu, parce qu'il transcrit ce qu'il entend en latin, mais de temps en temps, il passe au Languedoc, parce que ce qu'il entend le stupéfait. Il est question de quoi ? Là, nous avons privilégié un extrait où les questions de l'assemblée diabolique, donc qu'on appellera un peu plus tard le sabbat, et de ses rapports charnels avec le démon. Alors, on peut en lire quelques extraits. Fanny, tu fais Martial, je fais le juge, qui est un juge laïque, qui n'est pas un inquisiteur. Hein. Interrogé sur ce qu'il faisait de plus dans leur dit sabbat ou assemblée diabolique.
Elle a dit qu'au sabbat, avant qu'elle ne veuille en partir, elle faisait l'hommage au diable, qui avait la forme d'un bouc, en lui baisant la partie postérieure, soit le cul.
Interrogé comment et de quelle façon elle faisait cet hommage.
Elle a dit qu'elle venait les unes après les autres, portant une torche à la main, comme une chandelle, tantôt enflammée et illuminée, tantôt éteinte.
Interrogé si le dit Robin, le démon, faisait l'hommage.
La dite Martial a dit que non, qu'au retour du sabbat, sur le bord du chemin, le dit Robin l'a connue charnellement et il s'est accouplé avec elle. Quand il la connaissait, il faisait mettre la dite Martial à quatre pattes, lui tenant la tête contre la terre et dans cette position, il s'accouplait comme des bêtes.
Interrogé de quelle forme était le dit Robin pendant qu'il la connaissait.
Elle a dit qu'il avait la forme d'un homme et comme elle vient de le déposer, il la connaissait par derrière.
Interrogé de quelle forme était son membre.
Elle a dit que son membre était long, difforme et pointu.
Interrogé s'il était froid ou chaud.
Elle a dit que la matière qui en sortait était froide.
Donc là, nous avons un procès verbal assez spectaculaire. Hein. L'original,
c'est très détaillé, parce que c'est ça qui est c'est intéressant. Pierre Fournier, c'est extrêmement détaillé. Tout
extrêmement
est pris en note.
Détaillé. On s'en prend à une femme, à plusieurs femmes. On les arrête, on les torture, on les interroge, on les juge, on les condamne. Mais ça n'a pas du tout l'ampleur et le caractère systématique que cela va prendre beaucoup plus tard, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Grâce au traité de démonologie et aux normes de la procédure inquisitoire, vous avez donc, dès cette époque-là, une série de questions qui vont être les mêmes jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Comment s'est passé ? Alors d'abord, pourquoi as-tu cette réputation de sorcière ? Parce que tout commence souvent par une histoire de réputation, de mauvaise réputation. Ensuite, comment s'est passée la rencontre avec le diable ? Comment s'est passé le pacte ? Quels sont les termes du pacte ? Et qu'as-tu fait après avoir conclu ce pacte ? Hein, maléficier tes voisins, tes voisines, les enfants, les animaux, etc. Et puis, que se passait-il dans ces assemblées nocturnes ?
C'est l'inversion sociale, hein, voilà. Souvent Pierre Fournier, c'est le désordre. En
voilà,
fait, hein,
et c'est vrai que le sabbat, c'est la messe à l'envers. Tout se passe à l'envers, on danse à l'envers, on chante à l'envers, etc. etc.
Les riches et les pauvres sont aussi, peuvent être mêlés ensemble. Hein,
voilà. Et plusieurs femmes présumées sorcières, effectivement, quand elles évoquent ce sabbat, disent à quel point c'est un peu comme sur Terre tout de même, puisqu'il y a les riches bien habillés. Et les pauvres à qui on fait faire des choses un peu dégoûtantes.
Voilà. En tous les cas, ces procès en sorcellerie qui vont donc s'accentuer, ils sont dus, Pierre Fournier ou Fanny Bunion, ils sont dus quoi, à des crises politiques, religieuses, et puis aussi peut-être des crises aussi économiques, au moment des épidémies par exemple, des crises de maladies. Évidemment qu'il faut chercher, trouver des boucs émissaires, et donc on se retourne contre... Les femmes, les sorcières, en l'occurrence.
Alors les historiens se sont beaucoup interrogés, s'interrogent encore sur le pourquoi de cette période qu'on a appelée de temps en temps l'Europe des bûchers. Alors, il y a plusieurs explications, il n'y en a pas qu'une. Bien évidemment, c'est une époque de crise, de guerre de religion, de confrontation entre plusieurs fanatismes, le fanatisme catholique, le fanatisme protestant. On évoque même cette partie médiane de l'Europe, hein, qui correspond au nord et à l'est de la France, la zone Flandre, l'Allemagne rhénane et l'espace helvétique. On a parlé d'un mini-âge glaciaire qui fait que les crises économiques, sociales sont encore plus graves qu'en temps normal. Il fait très froid, donc les famines sont plus dures, etc. Il y a des passages de mercenaires qui traversent l'Europe de part en part à l'époque de la guerre de 30 ans. Donc c'est vrai que c'est des sociétés fragiles, fragilisées. Et de temps en temps, il se passe la chose suivante. Dans une communauté en crise, menacée dans ses fondements, on va désigner donc une ou plusieurs femmes bouc émissaire.
On doit rechercher aussi les signes du maléfice sur la sorcière en question. Alors il y a des médecins qui vont essayer d'explorer le corps, de l'ensorceler, en lui plantant notamment par exemple des aiguilles dans le corps pour savoir si elle ne sent rien, c'est qu'elle a effectivement été possédée par le diable. Fanny Bunion, alors c'est toujours ce rapport, cette question du corps qui revient.
Il y a cette idée que les sorcières ont connu charnellement le démon et donc elles sont possédées par leur sexe. Et ces femmes possédées, supposées possédées par leur sexe, ce sont des femmes de tous les âges. C'est aussi ce qui est assez frappant. On le voit, on a des interrogatoires de petites filles d'une dizaine d'années à qui on fait dire, puisque là on est à travers un filtre judiciaire aussi, une retranscription, à qui on fait dire qu'elles ont copulé, qu'elles se sont accouplées avec le diable, elles décrivent la semence, etc. Donc on a des femmes d'âge vraiment extrêmement varié, des femmes de 70 ans, des femmes de 12 ans, donc quelque chose de très hétérogène, mais avec cette idée que tout se joue autour de leur corps, de leur sexe. Et l'une des spécificités de ces procès en sorcellerie, c'est que ce ne sont pas des procédures contradictoires. À la différence d'autres formes de procès, elles sont présumées vraiment coupables,
a priori, d'emblée.
Donc ces femmes, elles sont suspectées d'avoir connu charnellement le diable, et donc il y a forcément une trace. C'est ce qu'on retrouve dans les traités de démonologie, il faut retrouver ce qu'on appelle la marque du diable. Ça passe effectivement par le fait de planter des aiguilles, et si une zone du corps n'est pas sensible, c'est peut-être que ici il y a cette fameuse marque du diable, ça peut être une tache. On va raser aussi le corps des femmes pour rechercher effectivement ces marques-là. Donc il y a quelque chose aussi dans l'ordre de la procédure qui relève d'une forme d'humiliation aussi, qui est liée à leur sexe, et une dépossession en tout cas complète du corps de ces femmes.
Pierre Fournier.
On peut tout simplement lire l'extrait que nous exposons de l'item numéro 22 qui concerne une certaine Aldegonde, qui est une vieille femme de 70 ans et qui est jugée pour affaire de sorcellerie en 1601 dans le nord, autour de Bazuel. Tout, absolument tout doit être écrit, ça laisse d'ailleurs de très belles archives. Donc je lis cet extrait. Le bourreau l'a vue et visitée par tous les lieux et places de son corps, même en des lieux intérieurs, comme la bouche et les parties honteuses, et les poils et les toisons de son corps, jusqu'à lui avoir coupé les poils et lienneux, les cheveux, ça c'est du patois nordique, de sa tête. Et lequel Minard, c'est le bourreau, le maître exécuteur de la justice, nous a dit et rapporté qu'il a trouvé sur Iselle femme une marque sur l'épaule gauche, en forme de 5 petits points, comme si elle avait été faite exprès. Et sont ici les marques, telles et semblables que celles qu'il a trouvées et reconnues sur les corps de 274 femmes qui ont été par lui visitées et exécutées à la mort par sentence de justice.
Oh.
deuxième figure que vous avez choisi de traiter, parce que là on va changer de section dans l'exposition, c'est celle de l'empoisonneuse, hein, voilà, qui succède peut-être aussi de manière chronologique, Fanny Bunion, d'une certaine manière, à la sorcière.
Les autres figures de femmes criminelles, effectivement, elles concentrent ce qui va ensuite être décliné dans d'autres figures criminelles, parce que l'empoisonneuse dont il est ici question, c'est elle qui a la connaissance des plantes, des poisons, comme ce qui est reproché aussi aux sorcières et à ces jardins d'herbes qui peuvent soigner, mais aussi qui peuvent tuer. Donc c'est en quelque sorte une déclinaison de l'époque moderne et contemporaine de cette figure de la sorcière à travers ce pouvoir de donner la mort dans l'ombre des foyers, des cuisines, un cadavre qui existe mais qui n'est pas marqué à l'extérieur, hein, qui n'est pas blessé, donc un crime invisible en quelque sorte, un crime domestique dans lequel les femmes sont surreprésentées. Il y a des hommes empoisonneurs, tout comme il y avait aussi des hommes qui ont été mis en cause pour sorcellerie, mais elles sont beaucoup plus présentes, et cette dimension nourricière, là, pour le coup, est prise à l'envers et mise en accusation, donc une trahison aussi de cette fonction sociale nourricière des femmes.
Alors, je ne sais pas si vous voulez choisir une affaire en particulier, Pierre Fournier, que vous avez travaillé dans cette exposition.
Médard de Léger, âgée de 14 ans, qui, moi, m'a troublé parce qu'elle est très jeune. Et c'est une paysanne pauvre, servante, et qui a pour amant le curé du village. Et bon, on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé, mais enfin, elle est condamnée à mort. Mais vraisemblablement, la sentence n'a pas été exécutée. Donc, Fanny, moi-même, on peut vous lire un très court extrait. Hein. Interrogée si elle a connu le nommé Cornu, curé de son village, et s'il n'a pas couché avec elle plusieurs fois.
A dit que oui, pour son malheur.
Interrogée s'il l'a connue avant son mariage.
A dit que non.
Interrogée si elle n'a pas empoisonné son mari.
A dit qu'elle fit acheter de la morora par Chancerelle, son oncle, qui lui donna, et le curé de sa servante lui dit d'en mettre un peu dans le bouillon de son mari, et qu'il ne lui dirait plus rien. Ce qu'elle fit, que la servante lui a dit 4 ou 5 fois cela, et d'en mettre gros comme le doigt, ne se souvient point qui mise en poudre, la mort aura et ne sait qu'est devenu le reste. Le curé lui a conseillé aussi 4 ou 5 fois de donner un petit morceau de mort aura à son mari dans un bouillon, et qu'il ne la battrait plus.
Interrogée si son mari l'a maltraitée.
A dit que oui.
Et ainsi de suite. Nous montrons aussi d'autres cas d'empoisonnement, hein, des femmes qui empoisonnent leurs petites sœurs, leurs cousines, alors... C'est souvent des histoires d'héritage assez glauques, mais enfin voilà. Et ensuite, nous montrons dans plusieurs autres vitrines comment cela se passe, c'est-à-dire que ça n'est plus les herbes et les ongons du diable, mais c'est tout simplement l'arsenic, la morora, le vif argent, donc des produits que l'on se procure facilement à l'époque, hein. Nous sommes à l'époque moderne, et c'est vrai que l'arsenic est au centre de tout. Et la troisième vitrine, c'est qu'est-ce qu'on empoisonne. Et là, on voit bien, et on revient dans l'espace domestique, c'est la nourriture... qui est empoisonné. Donc c'est le pâté, le bouillon, le potage, le gâteau, bien évidemment, et parfois même les fruits.
Et là, les femmes dont il est question dans ces archives sont des femmes d'âge différent. Hein. On citait cette jeune Médard de 14 ans à la fin du XVIIe siècle. On a des femmes jeunes, des femmes plus âgées, et puis des femmes de toutes conditions sociales. Aussi, et ça c'est quelque chose d'important, hein. On citait une servante de curé, mais on peut aussi citer l'affaire des poisons qui sème le trouble à la cour. Donc on a voilà, cet éventail d'une forme de crime qui n'est pas cantonnée à un milieu social, à un espace géographique, à un profil déterminé. Donc c'est quelque chose qui va nourrir, et puis qui va nourrir aussi les représentations et la culture populaire avec la massification de la presse au XIXe siècle, où le fait divers, l'encre et le sang, pour reprendre la formule de Dominique Khalifa, fait vendre. Et donc là, on est sur du crime, du sang, et du sexe aussi, souvent. Donc on a des ingrédients qui sont quand même assez émoustillants et assez porteurs, avec parfois des femmes qui avouent, parfois même qui revendique. Et le cas d'Hélène Jégado, qui est ici représentée, donc qui a été décapitée dans la cour de la prison pour femmes de Rennes au milieu du 19e siècle, au moment de monter sur l'échafaud, on rapporte qu'elle aurait dit qu'elle avait tué beaucoup plus de gens que ce pour quoi elle a été condamnée, donc qui était une servante et donc qui empoisonnait ses maîtres et l'entourage des familles et notamment des prêtres pour lesquels elle officiait. Et sa spécialité, c'était un gâteau à l'arsenic. Elle était réputée excellente cuisinière et visiblement la gourmandise a été fatale à quelques-uns. Et Hélène Jégado, on la retrouve dans des canards du 19e siècle, on la retrouve aussi dans des téléfilms, dans des émissions de télévision et puis même au cinéma en 2017. Donc c'est une figure en plus qui a une postérité qui circule dans le temps et qui fascine parce qu'elle n'avoue pas sur le mode de la repentance. Soit elle dit « je n'ai rien fait, ce sont des gens qui m'en veulent et qui cherchent à me charger », soit elle dit « ce sont des gens qui ont été méchants avec moi et je me suis vengée ».
Le paquet destiné à mon père comprenait 24 comprimés de sorvenal réduits en poudre. Je l'ai placé à portée de sa main. Celui que je destinais à ma mère contenait 12 comprimés. Je l'ai disposé devant elle.
On peut entendre effectivement l'affaire de Violette Nozière, hein, qui déchaîne les passions dans les années 30, où elle a tenté d'empoisonner ses deux parents. Et puis finalement, c'est son père qui décède. Et elle explique, au moment de son procès, qu'en fait, son père était quelqu'un de maltraitant, qu'il l'a violé, que sa mère a couvert. Et donc, à 18 ans, d'avoir empoisonné son père, c'était une manière d'échapper à une tyrannie familiale dont elle était victime. Et elle va susciter bien des passions parce qu'on s'intéresse aussi à sa vie privée. Elle se met en scène, elle pose dénudée un peu à la Joséphine Baker. Elle est prise en protection par les surréalistes aussi qui en font une icône de cette société des années 30 jugée sclérosée à l'égard de la jeunesse et à l'égard des femmes en particulier. Donc il n'y a jamais un seul type de regard ou un seul type de discours, même dans l'enceinte judiciaire et plus largement dans la culture de masse qui explose dans ce début de XXe siècle.
Vous me dégoûtez. Vous êtes tous des salauds. Vous êtes pitoyables. Je vous maudis tous autant que vous êtes.
Garde, emmenez la condamnée.
Dans tous ses ports.
Le troisième des archétypes, des cinq que nous illustrons dans cette expo, l'infanticide. Donc là, sur le plan statistique, ça se passe de commentaires, puisque bien évidemment, c'est 99% des personnes jugées qui se trouvent être des femmes. Nous traitons le sujet en mettant l'accent sur l'époque moderne, et notamment sur ces actes de procédure induits par le fameux édit du roi Henri II de 1556, qui pose que le fait de cacher sa grossesse peut être puni de mort. Alors, cet édit ne concerne pas toutes les femmes, il concerne les femmes non mariées, donc qui ne sont pas encore mariées ou qui sont devenues veuves. Et on voit à travers ces pièces de procédure que, puisque nous indiquons par un pictogramme quel est le sort pénal réservé à ces femmes, que dans bien des cas c'est la condamnation à mort, et on sait à travers les sources que la sentence a été exécutée. Et donc c'est ce qui va se passer à la fin du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Ensuite on voit très bien que les juges, et notamment les juges du Parlement de Paris, sont beaucoup plus sensibles à la détresse de ces jeunes femmes, et on voit au gré de ces pièces de procédure se multiplier cette formule très belle, ad omnia quittera mortem, tout sauf la mort. Et on voit comment, à travers les pièces de procédure de tribunaux bretons du XIXe siècle, qu'au XIXe siècle, en Bretagne, les affaires d'infanticide, qui se terminent aux assises dans la plupart des cas, donnent lieu à des non-lieux, et puis on voit même des femmes acquittées. Pourquoi ? Parce que le jury populaire, est sensible aussi à la détresse de ces femmes qui n'ont pas trouvé d'autre solution que de tuer l'enfant qui sortait de leur ventre. Mais ce qui est bouleversant, à mon sens, à travers ces pièces de procédure, au-delà de la détresse de cette femme, c'est de montrer justement comment le corps de la femme, là aussi, au moment de ces interrogatoires, de ces comparutions devant le magistrat ou, dans un premier temps, devant le gendarme ou le policier, on voit comment le corps de la femme est pris sur cible, puisqu'on va interroger ces femmes sur justement les transformations de leur corps. Parce que les voisins, les parents ont vu le corps se transformer. Donc on va les interroger sur la forme de leur ventre, sur la forme de leur sein, etc. Ensuite, on va les interroger sur ce qui s'est passé au moment de l'accouchement. Pour qu'il y ait infanticide, il faut qu'il y ait accouchement. Et là, c'est vrai que ce sont parmi, à mon avis, les pièces les plus bouleversantes de l'exposition. Puisqu'on entend ces femmes raconter ce moment où elle se retrouve toute seule donc pour accoucher. Et ça, c'est la dernière partie de cette section consacrée à l'infanticide. Comment tout a commencé, c'est-à-dire comment il y a eu un moment de séduction, d'abandon. Et là, vous avez tous les cas de figure. Hein. Ça va effectivement de l'histoire d'amour éphémère, forcément, puisque l'homme est parti. Hein. C'est l'archétype de la femme séduite et abandonnée. Ça, c'est une expression d'Arlette Farge. Mais c'est pas seulement une histoire d'amour éphémère. C'est pas seulement une rencontre. C'est aussi toute cette atmosphère familiale très très dure, c'est-à-dire c'est le viol et c'est l'inceste intrafamilial.
Fanny Bunion, oui, sur cette...
Ce qu'on retrouve notamment dans ces archives du 19e siècle, c'est que ces femmes expliquent qu'elles ont cherché à avorter, à interrompre leur grossesse via des plantes, via des techniques,
des matrones,
et qu'elles n'y sont pas parvenues quand elles ont su qu'elles étaient enceintes, parce que certaines, et on le voit aussi dans des pièces peut-être plus sur le 18e siècle, de femmes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, en tout cas qui disent « j'ai senti quelque chose tomber, j'avais mal au ventre, j'ai cru que j'avais la diarrhée, je ne sais pas ce qui s'est passé ».
Oui, parce que la plupart du temps, Fanny Bunion, c'est le premier enfantement.
On est face à des femmes,
des femmes jeunes,
généralement analphabètes, c'est un crime de la misère, hein. Beaucoup de domestiques, des servantes, amour éphémère ou agression sexuelle, parce qu'on est aussi dans ce double cas, de femmes qui ne comprennent pas, mais dont le corps marque un acte honteux, qu'il faut faire disparaître. Et il y a aussi cette question de que devient le corps du crime ? Que devient l'objet du délit ? Certaines racontent qu'elles l'ont donné à manger au cochon. On a des images, non, notamment image, cette gravure. Alors c'est extrêmement rare ce type d'image où on voit une femme avec deux corps de nourrissons qui sont marqués par le sang et qu'elle est en train de piquer avec une fourche.
Et enterrée, on dirait. Hein,
et enterrée, effectivement, de manière dramatique, seule. Elle est seule, et effectivement, c'est un crime. C'est un crime de la solitude, c'est un crime de la misère. Et comme le disait Pierre Fournier, au XIXe siècle, les jurys d'assises sont sensibles à cela parce que c'est en quelque sorte une double peine que de condamner ces femmes à une peine de prison après le geste dramatique qu'elles ont accompli.
Pierre Fournier, vous vouliez lire
Je peux vous proposer un extrait, peut-être pas l'intégralité. C'est Marie, une certaine Marie Guyot, une jeune femme de 20 ans, et nous avons là son interrogatoire au Châtelet de Paris. On sait, alors nous sommes, pardon, j'aurais pu le préciser, en 1784, à la fin de l'Ancien Régime, il n'est rien arrivé à Marie Guyot. Mais son interrogatoire est assez bouleversant, vous allez comprendre pourquoi. Donc je fais à nouveau la voix du juge. Si elle n'était pas enceinte, et des œuvres de qui ? Et si la nuit du 14 au 15 du mois, nous sommes au mois d'août, étant accouchée, elle n'a pas jeté son enfant par la fenêtre, en sorte qu'il est mort de sa chute.
A dit qu'elle était domestique chez le nommé Nolin, cocher de M. Gaulier et sa femme depuis 2 ans environ, qu'elle a eu affaire au dit sieur Nolin 5 ou 6 fois depuis qu'elle demeure chez lui, n'a eu affaire à aucun autre homme, qu'elle a eu ses règles au mois de janvier dernier et n'a rien su depuis ce temps, qu'elle ne se croyait point enceinte. Que la nuit du 14 au 15 de ce mois, elle a ressenti des douleurs considérables comme de coliques, que ne soupçonnant point que ce pouvait être et n'ayant point de lumière, elle s'est relevée et a senti un paquet qui tombait de dessous d'elle, que ne sachant ce que pouvait être, ayant perdu la tête par la force des douleurs, elle a arraché ce paquet qu'elle a jeté par la fenêtre qui était ouverte, elle s'est ensuite recouchée, qu'au bout d'une demi-heure, elle a senti encore quelque chose qui voulait sortir par la matrice. Qu'en effet, il en sortit un autre paquet, qu'elle ne savait pas ce que c'était, et l'a gardé jusqu'à 7 heures du matin. Qu'à 7 heures, ayant entendu dire qu'on avait trouvé un enfant et soupçonnant par cela même que c'était elle qui s'était accouchée d'un enfant, elle a été jetée ce second paquet dans les commodités.
Oh.
Donc dans la quatrième partie de cette exposition qui est consacrée à la pétroleuse. Et alors la pétroleuse, c'est par contre là une figure archétypale de femme criminelle qui n'a pas d'équivalent masculin. Nous n'avons pas de pétroleur, nous n'avons que des pétroleuses. Et la particularité aussi de cette figure, c'est que c'est une figure de la culture populaire qui n'est pas arrimée à une réalité pénale, à une réalité judiciaire, puisque qu'est-ce que ce sont que ces pétroleuses ? Ce sont des femmes qui sont accusées d'avoir incendié Paris au moment de la Semaine sanglante, en mai 1871, à la fin de la Commune. Et l'une de ces pétroleuses les plus célèbres, c'est Louise Michel. Et Louise Michel, qui est une enfant naturelle, qui n'a pas fait l'objet d'un infanticide, si on peut dire, à sa naissance, mais qui est enfant naturelle. Sa mère était servante dans une famille de notables, d'une petite commune de Haute-Marne. Et elle va bénéficier, elle, à la différence d'autres de ses femmes, d'un soutien de la famille de son père naturel, qui vont lui permettre d'accéder à des études, et elle va devenir institutrice. Alors Louise Michel, c'est la figure la plus connue de ces femmes de la Commune de Paris. Elle va être effectivement mise en accusation comme pétroleuse. Elle va être traduite devant le Conseil de guerre, donc les tribunaux militaires qui sont chargés de réprimer les communards au lendemain, enfin dans l'année qui suit l'écrasement de la Commune. Et le paradoxe, c'est que sur le millier de femmes qui sont traduites devant cette cour de justice militaire et masculine, aucune ne va être condamnée pour incendie volontaire. Elles vont être condamnées à d'autres choses, mais aucune pour avoir incendié ou pour avoir mis le feu avec du pétrole. Donc là, on est sur une figure assez intéressante parce qu'elle nourrit aussi les imaginaires, et le terme est encore utilisé aujourd'hui. On voit comment l'expression a circulé pour désigner des figures féminines du désordre liées à des questions politiques. Sous la Commune de Paris, alors il y a d'autres événements antérieurs, hein, de périodes révolutionnaires sous la Révolution française, en 1830, en 1848, qui mettent en scène des femmes qui aspirent à participer à la vie politique et à la contestation de l'ordre politique, ce dont elles n'ont pas le droit.
Voilà, tout est là, elle est là, la transgression.
On est sur une transgression qui la touche aussi au droit, puisque sous la Révolution française, on fait fermer les clubs politiques de femmes et les clubs mixtes en 1793, au même moment où on interdit aux femmes de participer aux activités militaires, parce que la définition de la citoyenneté, elle est liée à l'accès aux armes et au pouvoir de violence. Donc il y a cette définition de la citoyenneté qui exclut les femmes en 1830 et plus encore en 1848, le moment où tous les hommes majeurs obtiennent des droits politiques, les femmes en restent complètement exclues, et on met en scène dans des gravures, dans des journaux, des figures de ces femmes en armes, alors qu'ils sont là encore des mythes.
Les tricoteuses de la Révolution.
Les tricoteuses,
française,
voilà, ces femmes assoiffées de sang, les vésuviennes du 19e siècle, les icariennes, ces femmes qui aspiraient à se poser en égale des hommes, qui parfois même s'habillaient comme les hommes, c'est-à-dire portaient un pantalon, ou comme Louise Michel, et c'est quelque chose qui va lui être reproché dans la procédure qui est menée contre elle, de porter l'habit militaire, de s'habiller en soldat. Et Louise Michel le dit d'ailleurs, elle le revendique. Que c'est un soldat au service d'une cause et qu'elle a combattu. Alors c'est en quelque sorte une espèce de vierge rouge ou vierge noire. C'est une femme qui ne s'est jamais mariée, qui n'a jamais eu d'enfant. Et puis dans les caricatures à la fois de ses soutiens, mais aussi des caricatures de ses détracteurs qui sont extrêmement nombreuses, on la représente comme une femme extrêmement laide, échevelée.
C'est la condition pour faire de la politique finalement.
Finalement, être jolie n'est pas un avantage si on veut passer auprès des hommes pour quelqu'un de crédible.
C'est ça la leçon.
Je trouve aussi dans le cas de Germaine Berton, alors là c'est une résonance de nos pétroleuses. Germaine Berton, c'est une jeune militante anarchiste qui est jugée en décembre 1923, à l'époque elle a 21 ans. Donc quand elle commet son crime, elle est mineure, mais au moment du procès, elle est majeure. Et qu'est-ce qu'on lui reproche à Germaine Berton ? Eh bien d'avoir assassiné l'un des responsables de l'Action française et des Camelots du Roi, qui est une figure célèbre à l'époque, et son procès en décembre 23 est très 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 suivi. Elle le revendique, elle explique qu'elle a délibérément abattu Marius Plateau, qu'en fait elle aurait voulu viser le
la figure royaliste la plus importante de l'époque, Léon Daudet, mais qu'elle ne l'a pas réussi à l'atteindre. Donc elle s'est rabattue, entre guillemets, sur Marius Plateau, dont les obsèques sont d'ailleurs filmées par les actualités cinématographiques et suivies par des milliers de personnes avec tous les honneurs de sa tendance. Et elle explique en fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle a voulu faire, c'est dénoncer l'agitation menée par les mouvements royalistes et venger Jean Jaurès. Parce que Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès, en 1914, a été acquittée en 1919. Et donc elle considère que l'Action française est responsable de la mort de Jaurès, est responsable de ce trouble et cette tension qui existe dans la France du début des années 20, et elle va être acquittée. Alors à son procès, elle bénéficie d'un soutien énorme, alors qu'elle revendique son crime et qu'elle adopte presque une position de martyr. On s'intéresse beaucoup à sa vie privée, qu'on soupçonne dissolue, de multiples partenaires sexuels, des hommes, mais aussi des femmes. On s'interroge sur sa coupe à la garçonne. On la représente sur les gravures, les dessins d'audience avec une lavalière, donc cette fameuse cravate de ces années folles. Elle va fédérer autour d'elle beaucoup plus largement que son propre camp politique extrêmement restreint. Une mouvance anarchiste est quelque chose d'extrêmement marginal, mais en revendiquant son crime, eh bien, elle est en quelque sorte purifiée. Et elle explique, elle le justifie à son avocat, qui est un des grands pénalistes de l'époque, Maître Torres, dit « il faut amnistier, enfin il faut acquitter Germaine Berton, il n'y a pas de gloire pour le sang versé, mais il faut l'acquitter pour l'apaisement, pour qu'elle aille rejoindre Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, dans l'anonymat et dans l'apaisement. »
Vous avez choisi de terminer donc cette exposition sur ce moment de la libération, il va y avoir l'épuration, et où de nombreuses femmes vont être tondues, accusées d'avoir collaboré, donc double peine, hein, peine pénale, et en plus tondues en public.
En fait, ça se passe en deux temps. D'abord, une justice populaire, expéditive, brève, brutale, mais non mortelle. Donc ça se passe au moment où les Allemands quittent les localités, et c'est, vous le voyez, hein, beaucoup d'archives filmiques réalisées par les troupes américaines et britanniques. Mais il y a un deuxième temps, et c'est la raison pour laquelle nous avons pu monter cette dernière partie consacrée à la traîtresse, qui est le temps de la justice, justement. Et nous avons donc autour de nous plusieurs pièces de procédure, des interrogatoires à nouveau, des lettres de dénonciation, des pièces à conviction, parmi lesquelles des photographies, bien sûr, où on montre encore une fois que là, certes, on est dans un archétype, mais il y a ce fonctionnement de la justice où l'on voit que le corps des femmes, encore une fois, est vraiment scruté, désigné. Et on emploie d'ailleurs le terme, c'est une expression de Fabrice Virgili, d'adultère à la nation. C'est quand même ça, avant tout, qu'il est leur reproché, même si, dans bien des cas, elles ont été jugées et condamnées pour des faits beaucoup plus graves que le fait d'avoir fréquenté des Allemands, d'avoir eu des relations amoureuses, etc., etc. Elles ont travaillé pour l'Allemagne, elles ont travaillé pour la Gestapo, certaines. Elles ont dénoncé des voisins, elles ont dénoncé des résistants, des juifs, des communistes, etc. Mais c'est vrai que c'est un des fils conducteurs de cette dernière partie, leur vie amoureuse et leur relation avec l'ennemi fait l'objet d'énormément de questions, de manière quasi systématique. Et là encore, faut-il le rappeler, il y a beaucoup de procès-verbaux d'interrogatoire de collaborateurs hommes. Il est rarissime qu'ils soient interrogés sur la relation
sexualité.
Sexualité, là aussi, s'agissant de la première étape publique, hein, sommaire de cette justice sommaire avec la tonte des femmes, plusieurs dizaines de milliers de femmes, entre 25 et 30 000 ont été tondues. Un homme a été tondu en France en 1944.
Alors c'est effectivement un sujet que effectivement un historien comme Fabrice Virgili a beaucoup travaillé. Il a collaboré à cette partie de l'exposition. Et ce qu'on observe, c'est cette espèce de double temps, de furie collective, dont les femmes et leur corps en particulier vont être l'objet, sur le registre de l'humiliation, sur le registre effectivement d'une trahison à travers le sexe, à travers le corps, qui n'est pas suspectée du côté des hommes. On ne peut pas exclure que des Français aient eu des relations sexuelles avec des Allemands. Mais toujours est-il que ça n'a pas été un objet de vindicte populaire, pour une raison aussi simple, c'est que les femmes font des enfants. Et qu'on a certaines images, alors la plus connue c'est la fameuse tondue de Chartres de Robert Capa, où on a Simone Touzeau qui est jetée à l'invindicte populaire, rasée, qui traverse la foule dans les rues de Chartres avec son bébé dans les bras. Parce qu'il y a effectivement cet enfant de l'ennemi. Et là on est sur un registre qui touche avec ses tontes, d'une purification du corps des femmes, mais plus largement du corps social après ces années de guerre. C'est pas la première fois qu'on tournait femme, on le disait en préambule, on rasait les sorcières aussi. On retrouve ici une gravure de la fin de l'Ancien Régime, de la fin du XVIIIe siècle, où on rase les prostituées, on tond les prostituées aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation à travers la chevelure qui fait écho à ce qu'on voyait en préambule. C'est cette tentation, ce pouvoir de séduction incarné par la chevelure. On coupe pas un bras, on coupe pas une oreille, on ne mutile pas une partie du corps.
Et puis c'est la sexualité, effectivement.
On touche à un symbole de la toison, etc., qui est extrêmement forte, et on le met en scène sur un registre de l'humiliation. Alors, on expose ce qu'on a retrouvé dans les archives, c'est-à-dire des albums photos, par exemple. On n'a pas juste des déclarations de femmes qui disent « oui, j'ai fait, non, j'ai pas fait », des maris qui racontent « quand je suis rentrée chez moi, il y avait un Allemand avec ma femme ». Parce qu'on a aussi ça, des dénonciations faites par les proches. Mais on a aussi tous ces albums photos de femmes qu'on voit posé avec des officiers allemands, être parfois vêtus de leur veste militaire, être en train de faire un pique-nique, d'aller à la plage, enfin bref, ce qui apparaît comme étant un moment de plaisir où on prend du bon temps, et ça c'est perçu comme quelque chose d'inacceptable, une trahison suprême dans cette période de guerre. Et l'humiliation, on a notamment une image moi, que je trouve extrêmement marquante, c'est cette photographie de femmes qui attendent d'être tendues, qu'on a là-bas, qui sont assises sur la paille, qui dissimulent leur visage. C'est une photographie qui est prise dans la cage au lion du zoo d'Anvers, en Belgique. Sur le plan symbolique, on met en scène, donc, dans une cage, on voit les barreaux, on voit les grilles de ces femmes qui se dissimulent, assises sur la paille, comme des bêtes, qui sont donc déchues de toute dignité humaine. Et l'objet de cette déchéance, on ne la connaît pas. Mais ce qu'on observe dans les autres images, dans les films aussi qui ont été tournés, où on voit ces scènes qui s'accompagnent parfois aussi de marquages physiques, de marquages au fer, de croix gammées dessinées sur le corps, etc. C'est d'une humiliation du corps et du sexe de ces femmes. C'est la flétrissure, c'est une indignité symbolique, corporelle, et puis on a aussi sur le plan de la justice des peines d'indignité nationale qui vont être prononcées. Donc on est sur un double versant. La plupart de ces femmes sont des anonymes, parfois qui ont fait l'objet d'un secret, d'un tabou, d'une honte dans leur famille. Parfois aussi des femmes beaucoup plus connues, dont les procès ont été extrêmement médiatisés.
On évoque Jeanne d'Arc au début de l'exposition, et là, à la fin de l'exposition, c'est le cas célèbre, les cas célèbres d'Arletty et de Corinne Luchaire, donc deux étoiles du cinéma français qui n'ont pas été tendues à la Libération parce que justement elles avaient les moyens de se protéger, mais qui ont été jugées par ces cours de justice mises en place pour l'épuration. Et là encore, bien évidemment, certes, on leur reproche d'avoir travaillé ou d'avoir envisagé de travailler pour l'Allemagne, mais surtout d'avoir eu des relations sentimentales, sexuelles, et pour Corinne Luchaire d'avoir eu un enfant d'un soldat allemand. Et ce qui est assez remarquable, c'est que là aussi on a des échos de ce qu'on a pu lire de manière très explicite ou implicite entre les lignes dans les autres parties de l'exposition. C'est qu'à nouveau c'est le corps donc de la femme, sa sexualité, sa vie affective qui est pris pour cible, qui est interrogé, et on voit très bien à travers toutes ces pièces de procédure qu'il est des questions que les juges posent aux femmes qu'ils ne posent jamais aux hommes.
Merci Fanny Bunion, merci Pierre Fournier pour cette déambulation dans l'exposition donc Présumé coupable qui dure jusqu'au 27 mars.
Une nuit d'écrasage dans le vent qui sanglote, tout semble noir dans le grand Paris qui dort. Il fait frio et il tombe de la flotte, à pas flanquer même un capot d'or. Tiens, mais là-bas, mais en vlaine caniche, t'as du frangin, bien qu'on voit ton museau. Sais-tu des fois, comme moi, que t'aurais pas de niche pour t'abriter les soirs qui tombent de l'eau. Pauvre cabot, t'as l'air miséreux, cependant t'as une gueule honnête et la douceur se lit dans tes bons yeux. Malgré que tu ne sois qu'une bête, doucement tu lèches ma main. Vas-y donc, va, y a pas d'offense, je suis qu'une pauvre fille et toi t'es qu'un pauvre chien. Enchanté de faire ta connaissance.
Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission ainsi que toutes les autres émissions de la Fabrique de l'Histoire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, à la page de la Fabrique. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et également nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse FabriqueFC. Fabrique FC. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. La prise de son était assurée par Yann Fressy et la réalisation par Françoise Camard. À demain.
Au cabot, on dirait vraiment que tu comprends toute ma vie de misère quand ton regard me fixe tristement. Je vois comme une larme à ta paupière. Va mon sort et pareil au tien. Et ta vie vaut pas mieux que la mienne. Tu peux maudire autant que moi le destin et lui garder un chien de ta chienne. On est nous deux cette nuit dans la rue, pas un passant qui se montre en chemin. Personne encore cette nuit dans la rue nous ramassera une lafigne chienne. Tout grelottant dans la bise qui souffle sous quelques ponts, bien on va s'abriter. Et puisqu'on est des copains de la mi-souffle, près ta frangine, on va plus se quitter. Au cabot, on n'est pas verni et de laisser sous la pluie battante. Pourtant, des hommes, t'es le meilleur ami. Et moi, dans le fond, je suis pas méchante.